Bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré à la Nuit européenne des chercheurs, une manifestation nationale qui se déroule aussi du côté d'Albi ce vendredi 27 novembre. Pour cette 16e édition nationale, mais 7e édition albigeoise, 14 villes vous invitent à venir rencontrer ces personnes qui travaillent au quotidien pour faire avancer le savoir collectif. Sous la lanterne des petits secrets nocturnes, thématique de l'édition 2020, ils se confieront à vous pour vous faire part de leur démarche, de leur métier, mais également des particularités et des subtilités qu'ils peuvent rencontrer pendant leurs travaux. Cette année, au contexte particulier, verra la manifestation se dérouler uniquement sur Internet. Avec au programme des speed searching national à la manière d'un speed dating, des courtes conférences à suivre en direct pour découvrir les sujets de thèse et les travaux de recherche des chercheurs albigeois, mais aussi des émissions de radio, des jeux et des quiz. Pour nous en parler avec nous, nous aurons dans cette émission Philippe Guillot, directeur de la recherche à l'Institut National Universitaire Champollion à Albi, Narendra Jussien, directeur de l'École des Mines d'Albi, Frédéric Benaben, professeur à l'École des Mines d'Albi du génie industriel qui interviendra lors de la nuit, Marie-Françoise Valax, professeur des universités en ergonomie et psychologie. Tout le programme de cette nuit des chercheurs est à retrouver en passant soit par le site de l'École des Mines, soit par le site de l'Institut National Universitaire Champollion, ou bien tout simplement en passant par notre site radioalbigeoise.com. Tout de suite, on accueille Philippe Guillot, directeur de la recherche à l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, je suis enseignant-chercheur à Champollion depuis 2006 maintenant, responsable également de laboratoire de recherche et directeur de la recherche depuis 2016. Donc je suis ravi d'être avec vous pour parler de la Nuit européenne des chercheurs, autour de laquelle nous nous mobilisons avec nos collègues de l'IMT Mines-Albi et de l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées pour cette 16e édition. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, cette année au contexte particulier, on l'espère que le public sera nombreux derrière les écrans pour suivre cette édition et on le pense que malheureusement beaucoup de publics ont le regard tourné vers la recherche en ce moment.
Ben oui, alors c'est vrai que pour nous c'est un peu particulier parce que c'est un format qui ne permettra pas de déplacer nos expérimentations en centre-ville pour aller vers le public qui vient généralement nombreux, puisque c'est environ 1000 visiteurs par an qui se succèdent sur les différents stands et sur les différents formats. Donc c'est un rendez-vous que nous aimons beaucoup. Comme vous le dites, cette année, il est organisé dans des conditions particulières. Donc j'espère que les acteurs seront motivés et qu'effectivement, le public sera nombreux au rendez-vous. Avec cependant un avantage, c'est que cette fois, bien entendu, les gens pourront à la fois assister aux propositions qui sont faites sur Albi, mais également sur Toulouse, pour se connecter et peut-être élargir un petit peu la vision qu'ils ont de la recherche qui est plus locale habituellement.
Alors, on le rappelle, c'est un événement 100% en ligne et 100% gratuit. Vous pouvez donc trouver toutes les informations pratiques pour suivre cette nuit des chercheurs via les sites de l'École des Mines ou bien de l'Université Champollion. Donc, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'Université Champollion puisque elle possède aussi un service consacré à la recherche.
Alors effectivement, en quelques mots, peut-être une particularité, c'est vrai que l'INU Champollion, c'est un jeune établissement tout d'abord, qui regroupe plus de 4000 étudiants qui sont répartis sur 3 campus, donc Albi, Castres et Rodez. Et je dirais que sa principale spécificité, c'est que c'est un établissement universitaire qui est pluridisciplinaire. Alors on a l'habitude de dire pluridisciplinaire hors santé, ce qui signifie que toutes les disciplines sont représentées, excepté médecine, pharmacie et dentaire. Voilà, donc c'est vraiment une particularité, cette pluridisciplinarité que l'on trouve dans la formation. on la retrouve également parmi les 82 en fait enseignants-chercheurs et dans leurs différents travaux de recherche, puisque ce sont plus de 25 spécialités de recherche qui sont représentées au sein de l'INU Champollion. Donc ces chercheurs effectuent leur recherche soit dans un des trois laboratoires de l'INU Champollion ou plus largement dans un laboratoire régional, majoritairement de la métropole toulousaine. Voilà, donc au-delà de ces chercheurs qui sont des acteurs permanents de la recherche de l'établissement, nous accueillons également des doctorants qui sont des étudiants salariés et qui sont encadrés par des chercheurs de l'établissement pour des travaux sur une durée de 3 ans. Donc voilà, donc ensuite par rapport à la recherche à Champollion, bon, c'est vrai que cette recherche est en pleine construction, je l'ai dit. C'est un établissement qui est jeune, qui est en plein développement. Donc notre objectif, c'est de nous inscrire dans la politique de recherche de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, mais tout en étant complémentaire et en soutenant les chercheurs dans leurs activités par différents moyens. Et c'est là que le rôle du service de recherche est important, vous l'avez dit. L'établissement se mobilise autour de ce service qui accompagne les chercheurs dans toutes leurs principales missions. Donc, pour mener à bien des projets de recherche, eh bien, il faut répondre à des appels d'offres. Ensuite, le service les accompagne dans la mise en place de projets de recherche. Un élément également de partage, c'est l'organisation de manifestations scientifiques, qui est un élément sur lequel nous apportons beaucoup d'attention au niveau de l'établissement. Et ensuite, ce service gère également les déplacements des enseignants-chercheurs, puisque ce sont des déplacements qui sont relativement fréquents quand ils permettent le partage. Et on sait que ce partage au niveau national et international, c'est une richesse pour le développement de la recherche. Donc voilà, en quelques mots, pour vous décrire un petit peu à la fois les particularités de l'établissement, ses objectifs en termes de recherche et également les missions de son service d'accompagnement à la recherche.
Très bien, alors on va recevoir d'ici quelques minutes le directeur de l'école des mines Télécom d'Albi. On imagine que vous collaborez ensemble et pas seulement à l'occasion de la nuit des chercheurs.
Alors c'est vrai que il y a un certain nombre de collaborations dans le cadre de la recherche. Alors pas uniquement, je tiens à le dire, il y a beaucoup de collaborations entre ces deux établissements, mais lorsque les compétences des deux établissements sont complémentaires, il arrive que, bien entendu, nous soyons positionnés en tant que partenaires sur des projets de recherche. Je peux en citer un actuellement, qui est un projet de recherche qui concerne la planification intelligente des tournées de transport de marchandises au niveau du territoire. Et dans ce projet de recherche, un laboratoire de l'INU Champollion et un laboratoire de l'Institut Mines Télécom Albi sont partenaires. Voilà. Mais c'est vrai que l'ANEC... Ça reste pour nous, pour nos deux établissements, un moment particulier, je dirais même amical, donc entre les deux établissements, mais également entre les différents services de ces établissements, et surtout entre les personnels. C'est la raison pour laquelle nous y sommes très attachés. Donc j'en profite, si je peux, pour remercier tous les acteurs de nos deux établissements qui se mobilisent pour faire de cette nuit un succès.
Donc l'ANEC, c'est la nuit européenne des chercheurs qui se déroulera en ligne ce vendredi 27 novembre. Vous allez pouvoir retrouver justement des chercheurs de l'école des mines et des chercheurs de l'université Champollion d'Albi. Le programme complet est à retrouver en passant par le site internet nuitchercheurs.univ-toulouse.fr. Philippe Guillot, grand merci per tout à coup, comme on dit chez nous.
Écoutez, c'est avec grand plaisir que j'ai participé et j'espère que malgré les conditions, sous un format un peu particulier, eh bien il y aura beaucoup d'auditeurs d'acteurs le soir de cette nuit européenne des chercheurs. Merci beaucoup.
Merci, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et directeur de la recherche à l'Institut National Universitaire Champollion à Albi. Merci, au revoir.
Monsieur Narendra Jussien, bien le bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'École des mines d'Albi, l'École des mines qui participe aussi à cette édition de la Nuit européenne des chercheurs le 27 novembre 2020, une édition qui se fera exclusivement sur Internet. N'hésitez pas pour plus d'infos à aller visiter donc les sites Internet de l'École des mines et de l'Université Champollion d'Albi pour retrouver tout le programme. Donc, monsieur Narendra Jussien, donc, l'École des mines possède 3 centres de formation et de recherche avec des domaines d'action bien spécifique. Vous pouvez tout d'abord, avant de présenter l'École des mines, vous présenter. Je crois que vous êtes arrivé récemment au sein de l'École des mines d'Albi.
Oui, tout à fait. Enfin, de moins en moins, j'ai été nommé directeur de l'École des mines le 1er mai 2017. Donc, ce qui nous fait maintenant 3 ans et demi. J'ai l'impression d'être là depuis bien plus longtemps. Donc voilà. Donc, je suis très très content d'être à la tête de cette école. Pour répondre à votre question, en effet, l'école a 3 centres de formation et de recherche sur 4 domaines d'expertise. Le premier, alors il n'y a pas de hiérarchie évidemment, hein. Le premier c'est tout ce qui touche aux matériaux et aux procédés pour l'aéronautique et le spatial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des matériaux plus légers, ça veut dire avoir des procédés de fabrication innovants. Typiquement, à l'école, on a développé des moules en béton qui permettent de fabriquer des pièces pour les avions et pour les fusées spatiales. Le deuxième domaine d'expertise de l'école, c'est tout ce qui est poudre pour la santé et la nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un médicament, c'est un principe actif qu'on réduit en poudre et qu'on libère dans des conditions définies de température et de pression, comme on dit. Donc c'est comme ça que fonctionne un médicament. Mais c'est aussi de cette manière-là qu'on peut nettoyer un moteur d'hélicoptère pendant qu'il est en train de tourner. On réduit en poudre la lessive, entre guillemets, et on la libère dans les conditions du moteur. Le troisième domaine d'expertise, il tourne autour des énergies renouvelables, en particulier le solaire, en particulier l'hydrogène, sur la valorisation de la biomasse, sur la valorisation des déchets et tout ce qui est éco-activité. Et le quatrième domaine, lui, il s'intéresse à la gestion de crise, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la prise en compte des aléas, la prise en compte de l'erreur humaine, finalement. Et c'est ce qu'on appelle la cinétique des organisations. Vous le voyez, ce sont 4 domaines qui sont très larges, qui offrent une palette très large à notre école et à nos étudiants et à nos partenaires. Mais ce sont 4 domaines qui sont vraiment aussi complémentaires à l'école.
Alors, le public qui participera à cette Nuit européenne des chercheurs pourra rencontrer 2 chercheurs qui viennent de l'École des mines d'Albi, Maxime Écochard, donc pour une rencontre ce vendredi à 18h, Carla Barcelo à 18h30, à 19h Manon Grest. Vous pouvez retrouver donc toutes les infos en passant par les sites internet de l'École des mines d'Albi. Vous nous avez présenté donc 4 domaines qui ont, j'ai envie de dire, qui ont de l'avenir, qui sont importants pour l'avenir, pour le futur, notamment le dernier, la gestion de crise.
Tout à fait, c'est tout à fait d'actualité. Et c'est vrai qu'on a travaillé... justement, en particulier pendant le premier confinement, on a travaillé de manière assez proche avec la préfecture du Tarn pour les accompagner sur de l'identification cartographique, parce que dans ce domaine-là, on parle beaucoup de réalité virtuelle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et donc on a apporté notre maigre pierre à l'édifice en travaillant avec la préfecture du Tarn au printemps dernier sur ces sujets.
Donc, preuve que vous avez une empreinte aussi bien locale que nationale qu'internationale.
Oui, tout à fait. C'est important et je vous remercie de le noter. C'est vrai qu'on peut croire que l'école vit en dehors de son territoire, mais c'est tout le contraire. Parce que je vais vous donner juste un chiffre. Hein, nous avons 8% de nos entrants qui viennent de la région Occitanie. 8%, c'est à peu près la taille du vivier, hein, comme on dit pour nos entrants. Mais nous avons 30% de nos diplômés qui restent dans la région Occitanie, et pas uniquement à Toulouse, et en particulier dans le département du Tarn, avec des entreprises qui sont créées par nos diplômés, nos diplômés qui s'insèrent dans le milieu industriel local et qui sont très attachés à Albi et sa région.
Alors justement, comment se porte le secteur de la recherche? Est-ce qu'il y a toujours autant de jeunes intéressés?
Alors c'est la recherche en France, d'une manière générale, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que avec le diplôme d'ingénieur, souvent les diplômés pensent que ils n'ont pas forcément besoin d'aller encore plus loin. Mais à l'école, nous avons cette chance d'avoir des élèves qui ont cet intérêt pour finalement aller plus loin, être à la pointe des thématiques que nous avons abordées tout à l'heure. Et donc, à l'école, ça se porte plutôt bien.
Et que diriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la recherche, mais qui aura encore des doutes?
Ben, je leur dirais que douter, c'est bien. Douter, c'est comme ça que fonctionne un chercheur. Il doute, il se pose des questions, il a envie d'aller plus loin. Donc s'il doute, alors j'ai bien compris que votre question portait sur le doute dans cette direction-là, mais je pense que s'ils sont curieux, s'ils ont envie d'approfondir un sujet, le domaine de la recherche est vraiment une voie qu'ils doivent considérer.
Narendra Jussien, merci bien. Donc on donne rendez-vous à nos auditeurs pour cette nuit européenne des chercheurs. Peut-être un mot pour terminer cette interview.
Venez nombreux parce que ça vaut vraiment la peine et nos chercheurs et nos chercheuses sont vraiment passionnants et sur tous les sujets.
Merci bien, on vous souhaite une bonne continuation et une belle nuit des chercheurs. Au revoir.
Merci, au revoir.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albijazz, vous écoutez un magazine consacré à la Nuit européenne des chercheurs qui se déroulera exclusivement en ligne ce vendredi 27 novembre 2020. On a le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Benaben. Frédéric, bien le bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut des mines Télécom d'Albi et vous allez participer aussi à cette nuit des chercheurs à partir de 21h avec une conférence curieuse avec comme intitulé « Ces forces qui influencent nos trajectoires ». Avant d'en dire un peu plus sur cette conférence, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter quel est votre parcours qui vous a mené jusqu'à la recherche ?
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, je suis Frédéric Benaben. Je suis donc professeur au Centre de génie industriel d'IMT Minalbi. J'ai un parcours de chercheur assez classique. J'ai fait une école d'ingénieur et puis ensuite un doctorat qui m'ont permis ensuite de postuler et de devenir enseignant-chercheur. J'ai fait de la recherche parce que lorsque j'ai terminé mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que les choses qui m'intéressaient, c'était quand même, c'était une espèce de cocktail de beaucoup de choses que j'étais capable de projeter dans le domaine de la recherche et moins peut-être dans le domaine de l'industrie, comme l'imagination, la créativité, les recherches long terme. Parfois aussi une certaine ambition et une certaine folie dans les idées qu'on pouvait avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas dans l'industrie, mais ça veut dire que je les ressentais mieux au niveau de la recherche. Donc c'est comme ça que je me suis plutôt orienté vers ce domaine-là. Et en 2003, j'ai donc intégré ce qui s'appelait à l'époque l'école des mines d'Albi, Carmo, et puis qui est aujourd'hui IMT Minalbi, où j'ai fait toute ma carrière depuis au centre de génie industriel jusqu'à en devenir professeur il y a quelques années et diriger certaines équipes de recherche depuis.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'Institut des Mines Télécom d'Albi, Carmo?
Ben, ils ont bien voulu de moi. Non, c'est une mauvaise réponse. Il se trouve que déjà, en mon école d'ingénieur, c'était elle-même une école des mines. Donc, j'ai fait mes études dans une école des mines. J'étais très familier des écoles des mines, et en particulier de... Alors, parce que j'y ai fait mes études, parce que je connaissais des gens, etc. Et les écoles des mines ont ceci de particulier que la recherche qui y est pratiquée, puisque c'est l'une des trois missions des écoles des mines, hein, la recherche, l'enseignement, et puis le travail avec le tissu industriel local, national, européen. Mais cette mission de recherche est une à vocation à de la recherche appliquée. Ça veut dire que on a de la recherche qui est fondamentale, qui est réalisée dans beaucoup d'universités, beaucoup de laboratoires, et il y a aussi de la recherche appliquée avec des horizons plus courts, des ambitions peut-être parfois plus concrètes. Je trouvais que c'était un bon compromis, moi qui venais donc d'études d'ingénieur, mais qui avait cette ambition et cette vocation à rêver un peu et à imaginer, c'était un bon compromis et c'était une bonne façon de s'orienter vers de la recherche, mais dans une collaboration étroite et appliquée avec les partenaires industriels, avec les partenaires institutionnels. Donc voilà, c'était une des raisons principales, c'était vraiment cette recherche d'un aspect concret.
Très bien. Alors, vous allez participer à cette nuit européenne des chercheurs ce vendredi 27 novembre 2020 et le public va pouvoir vous rencontrer sur Internet à partir de 21h avec une conférence curieuse qui a comme intitulé « Ces forces qui influencent nos trajectoires ». Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous allez présenter exactement lors de cette conférence curieuse?
Alors, je crois qu'il ne faut pas que j'en dise trop non plus, parce que l'objet de ces conférences, c'est justement de montrer quelque chose d'un peu étrange et de discuter avec les personnes qui assisteront pour qu'elles essaient de deviner l'objet de notre recherche et ce qu'on est en train de réaliser. Mais je peux quand même vous donner quelques éléments, faire un peu de teasing et essayer d'attirer un peu les gens. D'abord, je vais présenter une vidéo assez courte qui sera en lien avec de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on verra une scène de réalité virtuelle dans un concept très abstrait, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant avec la réalité virtuelle et que tout le monde imagine bien, c'est la capacité de la réalité virtuelle à répliquer la réalité, à vous montrer un environnement où vous avez l'impression que vous êtes dans la réalité, à vous dire « Waouh, ce paysage est magnifique, cet intérieur de véhicule, cet intérieur de maison, ou ces acteurs qui bougent autour de moi, tout ça a l'air tellement vrai ». Et c'est une très grande force de la réalité virtuelle, mais il y a une force de la réalité virtuelle qu'on exploite dans nos recherches, c'est aussi la capacité de la réalité virtuelle à s'affranchir de la réalité et à vous présenter un monde où, finalement, vous n'avez plus du tout quelque chose qui réplique la réalité. Alors, vous gardez vos repères, ce qui est en haut est en haut, ce qui est loin est loin, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, etc. On garde nos sens et nos réflexes physiologiques classiques, mais je peux ne plus avoir de gravité, je peux avoir des objets donc, qui flottent autour de moi, je peux avoir des objets qui représentent des données, qui représentent un truc abstrait. Je peux avoir quelque chose qui flotte autour de moi et cette sphère qui flotte autour de moi, ben, ça représente, un risque ou un taux de réussite. Donc on peut avoir des choses abstraites qui tout d'un coup peuvent prendre une saveur concrète. Parce qu'on peut l'avoir, on peut le toucher, on peut le déplacer, on peut en assembler plusieurs. Et je vais travailler un peu autour de ces notions-là d'utilisation de la réalité virtuelle pour rendre concrète, dans un environnement immersif, pour rendre concrète des données qui sont totalement abstraites sur le papier.
Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet ce vendredi 27 novembre 2020 à partir de 21h pour cette conférence curieuse de Frédéric Benaben. Merci bien pour terminer cette édition de la Nuit européenne des chercheurs pour thématique Petit secret nocturne. Vous n'en aurez pas un à nous dévoiler ?
Je vais vous dévoiler un petit secret. Qui est en lien avec l'activité, le laboratoire et l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. On a une activité très, très, très penché vers la gestion de crise. Ça fait des années qu'on travaille sur la gestion des situations de crise, comment est-ce qu'on améliore la gestion des crises, etc. C'est un domaine qui, évidemment, d'actualité, tristement, mais c'est un domaine qui, pendant des années, a subi une espèce de routine, tout simplement parce que la gestion de crise, c'est quelque chose d'assez discontinu. Il y a des crises, et puis il n'y en a plus, puis il y a des crises, et puis il n'y en a plus. Le petit secret que je peux vous révéler, c'est que tout ça, c'est fini. Alors, on entend beaucoup, le monde d'avant sera plus, le monde d'après sera plus le monde d'avant, etc. Mais ce que je peux vous dire, et le petit secret que je vais vous révéler, c'est que aujourd'hui, on a, je pense, les moyens de faire en sorte que les crises qui vont venir et les crises qu'on va rencontrer seront générées de manière beaucoup plus continue, seront gérées avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de réalisme. Et j'espère, et je crois que c'est ça le petit secret que je vais vous dire, c'est que cette crise qu'on rencontre, c'était un entraînement. Et je pense qu'on l'aura bien digéré et qu'on sera prêt et que ça va nous permettre de gérer ce qui arrive derrière, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les crises sociales, que ce soit beaucoup de choses. Je pense que ça a été un avertissement et un entraînement qu'on va être capable de valoriser et de bonifier.
Merci de terminer avec cette touche d'espoir, Frédéric Benaben. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des Mines Télécom d'Albi et on pourra vous rencontrer à l'occasion d'une conférence curieuse ce vendredi 27 novembre à 21h. Merci bien, au revoir.
Merci, au revoir.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albi Jazz 95.4 104.2 dans le Tarn et partout ailleurs sur internet radioalbijazz.com. Aujourd'hui, un magazine consacré à la nuit européenne des chercheurs qui a pour thématique Petits secrets nocturnes. Une nuit européenne qui se déroulera exclusivement sur internet, mais c'est un événement gratuit. On continue nos rencontres et on a le plaisir d'avoir avec nous au téléphone Marie-Françoise Valax. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur des universités en ergonomie et psychologie. Vous allez proposer une conférence curieuse à partir de 21h intitulée « Félicitations chérie, tu as pensé à faire les courses, le souvenir prospectif ou comment réussir à faire ce qu'on a prévu de faire au moment prévu pour le faire ». Avant d'en dire un peu plus sur cette conférence qui a l'air vraiment très curieuse, est-ce que vous pouvez nous vous présenter et présenter un peu votre parcours qui vous a mené jusqu'à la recherche ?
Vu mon âge, il va falloir que ça va risque de prendre très longtemps. En fait, je vais synthétiser peut-être. Moi, ce qui m'a amené à la recherche, c'est mes études universitaires. Quand j'ai découvert que l'on pouvait faire des petites études, comme ça, ça m'a intéressé et c'est là où j'étais la meilleure. Alors, ça m'a incité à continuer. Et puis j'ai fait de bonnes rencontres qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Ensuite, j'ai un parcours classique de docteur, et puis maître de conf, et puis professeur. J'ai fait la moitié de ma carrière à Toulouse. Et puis quand Champollion a été créé, Juste avant, j'avais ouvert une formation en ergonomie ici à Albi. Et donc je me suis dit, mais tiens, si on création d'une université, c'est quand même une belle aventure. Donc j'ai décidé de demander une mutation à Champollion et je ne l'ai jamais regretté, à part quelques moments difficiles, bien sûr, il y en a toujours partout. Voilà un peu pour mon parcours, et bon, j'y suis donc toujours à Champollion.
Et peut-être pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez présenter justement vos travaux?
Alors, pour ce qui est de mes travaux, j'ai commencé dans ma grande jeunesse à m'occuper de l'organisation du temps chez les agriculteurs. J'avais travaillé là-dessus pour ma thèse. Et je m'étais rendu compte que si tout le monde y parlait d'incertitude, en fait, on faisait un peu toujours pareil. Voilà, ça m'avait paru un peu bizarre. Et par la suite, j'avais laissé un peu de côté tout ça, quand même, pour partir sur la planification. Je travaillais sur la planification avec des ingénieurs. Donc on a travaillé sur la création, la conception de plans, donc les stratégies de construction des plans, chez l'homme en général, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la gestion de production en entreprise. Et quand je suis allée, on a fait des études en entreprise et je me souviens d'un jour où, alors ils ont des super logiciels qui coûtent très très cher, qui calculent au dixième d'heure, voire moins, les enchaînements d'opérations. Et un jour, je discutais, enfin je me promenais dans l'atelier et je demande ce que font les chefs d'atelier. Ils me disaient, je contrôle que tout a été fait. Et j'ai dit, mais c'est pas normal ça, parce que un plan, c'est fait pour avant l'action, pas après. Il me dit, non, mais avant, je sais parfaitement ce que j'ai à faire, c'est après le problème, c'est pour contrôler que je n'ai pas oublié. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'au-delà de la conception de plan, ce qui est intéressant, c'est la réalisation. Donc, je me suis intéressée à ça, à la réalisation. Et je me suis donc intéressée à comment on fait pour faire ce que l'on a à faire. Et là, je suis repartie un peu sur de la psychologie plus fondamentale. Et je me suis dit, mais comment on fait? Alors, j'ai cherché des études là-dessus, et des études, il n'y en avait pratiquement pas. Et ça augmente, mais ça augmente difficilement. En fait, il est très très visiblement très compliqué d'étudier la réalisation. La question de savoir comment vous réussissez à penser à faire quelque chose au moment où vous devez le faire. Pour les psychologues, dans la vie quotidienne, ça paraît normal. C'est bien pour ça que si quelqu'un vous dit d'aller faire des courses, si vous ne le faites pas, vous revenez, ça se passe mal. Parce que dans la vie quotidienne, on considère que c'est normal de réussir à faire ce que l'on a prévu de faire. Et au moment où on doit le faire. Dans la vie quotidienne, c'est pas du tout ça. Enfin, tout au moins, pour les psychologues pour la psychologie à l'heure actuelle, c'est relativement miraculeux d'être capable de faire des choses. Voilà à peu près comment je suis arrivée à la conférence que je ferai vendredi prochain, ou enfin vendredi, le 27.
Une conférence qui a l'air bien intéressante avec ce nom tout aussi étonnant et curieux. Est-ce que vous allez parler peut-être de procrastination?
Non, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on arrive à penser au moment où il faut à faire quelque chose. Comment à 14, donc j'avais rendez-vous à 14h, j'étais en train de faire autre chose, comment je fais à 14h pour penser que je dois le faire, aller à ce rendez-vous. C'est ça qui m'intéresse. Comment on fait, par exemple, un jour j'ai raté un cours. J'ai raté un cours, personne ne m'a fait penser que j'avais raté un cours. Alors c'était un cours inhabituel que je devais faire avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas forcément très très important, mais j'y ai pensé 3 jours après. Et 3 jours après, il y avait quelque chose qui me titillait. Je disais, mais pourquoi j'ai raté ce cours? Pourquoi? Sachant que personne ne me l'a rappelé, hein, même les étudiants ne m'en ont pas voulu visiblement d'avoir raté le cours. Donc ça doit, mes cours ne devaient pas être si extraordinaires que ça. mais c'est vrai qu'à la limite, ça c'est normal. Il est moins normal que j'aille faire cours régulièrement. C'est ça qui est bizarre. Alors comment on y arrive? Voilà, reporter à demain, à la limite, reporter à demain, c'est ça veut dire qu'on y pense. Pour pouvoir reporter, il faut que dans notre tête, on pense à ça. On pense qu'il faut faire. Moi, mon problème, c'est comment c'est arrivé, comment on a pensé à faire. Comment, à un moment donné, on a conscience qu'il faut faire ça. Et moi, je sais pas. Je sais pas. Enfin, j'ai quelques idées maintenant, puisqu'on y a travaillé. Mais globalement, c'est parce que vous-même, je suppose que vous pensez pas toujours à ce que vous allez faire dans 1 heure. 2 heures. Ce soir. On n'y pense pas tout le temps, c'est pas possible. Sinon, on aurait... Tout ça se bousculerait dans notre mémoire, on peut pas travailler comme ça.
Et puis il y a l'imprévu.
Et puis il y a l'imprévu, tout à fait. Donc le problème, c'est comment, avec tout ce que l'on a à faire, auquel on ne peut pas penser en même temps, comment il y a la chose à faire ici et maintenant qui ressort dans notre conscience. Et que l'on peut donc faire, parce que sinon... Alors, ceci est important, notamment dans la vie de travail, ça a été beaucoup étudié dans l'aéronautique, où on constate que pratiquement 80% d'erreurs sont dues justement à ce genre de choses, à des oublis de faire. On a oublié de faire, et c'est souvent quelque chose d'inhabituel d'ailleurs. Quand on a des choses habituelles à faire, des séries de choses, ça va. Mais quand c'est inhabituel, là, ça pose problème. On le retrouve aussi en médecine. Enfin, on l'a étudié dans des endroits où ça représente des risques d'accident très importants, avec des conséquences graves. Donc l'aéronautique ou encore la médecine. On voit dans des salles d'opération, que ça n'affole personne, hein, mais néanmoins parce que c'est récupéré. Mais dans des salles d'opération, il arrive qu'il y ait régulièrement des oublis de choses prévues. Et ça arrive très souvent. Heureusement, c'est récupéré la plupart du temps. Néanmoins, c'est un vrai problème, actuellement on en sait peu. Alors voilà,
Merci bien, Marie-Françoise Valax. On est pris par le temps. Donc, parfait. Je rappelle à nos auditeurs qui pourront assister à votre conférence curieuse ce vendredi 27 novembre à 21h via Internet. Donc, n'hésitez pas pour les auditeurs qui nous écoutent à mettre peut-être votre petit réveil, un petit mémo sur le frigo ou un petit réveil sur les téléphones pour ne pas oublier de participer à cette conférence curieuse de Marie-Françoise Valax. Merci bien, en tout cas.
Eh bien, au revoir à tout le monde. À bientôt.
À très bientôt. Au plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en ergonomie et psychologie. On vous souhaite une belle nuit des chercheurs. Au revoir.
Merci.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès 95.4 et 104.2 dans le Tarn et partout ailleurs, radioalbigès.com. Vous venez d'écouter une série d'interviews consacrées à la présentation de la Nuit Européenne des Chercheurs qui se déroulera ce vendredi 27 novembre 2020, un événement gratuit à suivre exclusivement sur Internet. Dans ce magazine que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet radioalbigès.com, vous avez pu entendre Philippe Guillot, directeur de la recherche à l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi, Narendra Jussien, directeur de l'École des Mines d'Albi, Frédéric Benaben, professeur à l'École des Mines d'Albi du Centre Génie Industriel, et Marie-Françoise Valax, professeur des universités en ergonomie et psychologie. N'hésitez pas à retrouver tout le programme complet de cette Nuit Européenne des Chercheurs en passant par le site internet de l'École des Mines d'Albi, de l'Université d'Albi ou bien tout simplement en passant par notre site radioalbigès.com. Un grand merci à Anne-Sophie Devy, directrice adjointe de la communication, de l'information et de la diffusion qui nous a permis de réaliser ce magazine. En vous souhaitant une bonne nuit des chercheurs et une belle écoute de la suite de notre programmation. Al plaisir, brave monde.